Et c'est le journal sur France Inter de Sébastien Legénie. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, le récit glaçant d'un naufrage de migrants en Méditerranée. Le récit d'une des seules ONG à pouvoir encore témoigner de ces drames. Nous entendrons des pilotes français qui survolent la mer à l'écoute des appels de détresse. Reportage à suivre dans un instant. Édouard Philippe en pleine lumière. Deuxième discours de politique générale du Premier ministre aujourd'hui. Retour en archive sur cet exercice politique. À Hong Kong, le bras de fer entre les autorités et la rue virent à l'avantage des manifestants. La loi très contestée à l'origine de cette mobilisation historique a été reportée. Ce matin, nous serons en direct de Pékin. Puis on parlera aussi dans ce journal de l'audition des laboratoires pharmaceutiques qui vont tenter une dernière fois de convaincre les autorités de continuer à rembourser l'homéopathie, et d'un artiste hors du commun, un peintre robot qui s'appelle Aida et qui crée ses tableaux grâce à des algorithmes.
La comédienne Fanny Ardant sur scène dans Hiroshima mon amour au Bouffe Parisien, et l'invité, je vous le rappelle, de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50.
France Inter.
Et on commence, Sébastien, avec ce témoignage rare, celui d'un pilote d'avion, témoin direct d'un naufrage de migrants en Méditerranée.
Ce pilote sillonne la Méditerranée depuis maintenant un an avec d'autres aviateurs à bord d'un Colibri, un petit appareil de 4 places affrété par l'ONG française Pilote Volontaire. Cette ONG, ces derniers mois, est devenue l'une des seules à pouvoir témoigner de ce qui se passe encore au large des côtes libyennes. Tous les navires humanitaires ont dû renoncer à sauver des vies, à empêcher d'accoster ou menacer par de fortes amendes en Italie. Cet avion est aujourd'hui bien seul à repérer des embarcations à la dérive. L'une de nos reporters a réussi à rencontrer un de ses pilotes de retour d'une rotation de 11 heures de vol à une 50aine de kilomètres de la Libye. Julie Pietri a pu recueillir les enregistrements à bord de l'avion.
Ce jour-là, le pilote, José Benavente, lance un appel de détresse. Il vient de repérer un bateau pneumatique avec une 60aine de personnes à bord. L'un des deux flotteurs se dégonfle, l'eau s'engouffre, des hommes tombent à la mer.
On n'a pas d'idée aujourd'hui depuis combien de temps ils étaient à la dérive. On a compté à peine 3 ou 4 personnes qui portaient un gilet ou quelque chose qui ressemblait à un gilet de sauvetage. On peut confirmer que malheureusement il y a eu des noyades à ce moment-là. On est à une distance suffisamment proche pour voir les signes, pour voir les visages, et on leur répond évidemment.
Aucun pêcheur, aucun navire commercial ou militaire ne répond au SOS. José Benavente contacte en urgence, à contre-cœur, les gardes-côtes libyens.
C'est une claire violation du droit maritime international, puisqu'il faut que les rescapés soient déposés dans un port sûr.
Les survivants sont finalement hissés à bord du bateau des Libyens. Pilote volontaire lancé il y a un an, ne peut plus aujourd'hui s'appuyer sur les navires humanitaires, intimidés, menacés, forcés de rester à quai.
Ça fait encore plus de sens quand il n'y a pas de bateau de secours sur la zone, puisqu'il n'y a plus de témoins sur la scène de crime. C'est un vrai problème, évidemment, parce que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les gens que les gens ne continuent pas à traverser. Il faut que les gens l'aient bien en tête.
Nous savons pertinemment, dit-il, que nous ne voyons pas tout et que ces derniers mois, beaucoup de personnes ont péri en mer, avec terreur et discrétion. À Lampedusa, Julie Pietri, France Inter.
Ajoutons que l'Italie de Matteo Salvini hier a durci les conditions d'entrée dans ses eaux territoriales. 10 à 50 000 euros d'amende pour tout navire qui débarquerait sans autorisation.
Il est 7h34, acte 2, scène 1. Édouard Philippe parle aux députés.
Deuxième discours de politique générale du Premier ministre aujourd'hui à 15h à l'Assemblée. Édouard Philippe qui doit préciser le calendrier et la teneur des principales réformes à venir. Au menu, le pouvoir d'achat, les retraites, l'assurance chômage, l'écologie. Le reste est en suspens. Pas certain que la PMA pour toutes soit retenue au programme, en balance avec la réforme constitutionnelle, l'autre réforme très sensible. Dans l'histoire de la Ve République, les discours de politique générale représentent un moment clé pour les premiers ministres. Retour en archive sur cet exercice avec François Rosy.
Premier enjeu quand on inaugure un acte 2, la défense du bilan. Jean-Pierre Raffarin en avril 2004.
Depuis 2 ans, l'action conduite a permis de sortir de certaines impasses. J'ai confiance, je refuse le pessimisme des mauvais prophètes du déclin.
Et à chaque fois, à la mi-temps, ce message, la promesse d'un nouveau souffle, Manuel Valls en 2014 et Dominique de Villepin en 2005.
Entre l'immobilisme et l'action, je choisis résolument le parti de l'action.
C'est conscient de la responsabilité que m'a confié le chef de l'État que je me présente devant vous pour ouvrir une nouvelle étape du quinquennat.
Été 1984, Laurent Fabius a 37 ans. Mitterrand a déjà entamé son virage de la rigueur et le Premier ministre insiste, lui, sur les attentes de la jeunesse.
Ils attendent de nous que, sans renier nos différences,
nous sachions faire quelque chose qui ressemble à la paix civile. Je souhaite que vos débats au Parlement aillent en ce sens et qu'ainsi ils fassent honneur à la politique.
Discours de mobilisation, discours de la méthode aussi. François Fillon et la réforme. En 2010, il met la pression sur les syndicats.
Ils doivent également négocier une nouvelle convention d'assurance chômage. Je leur fais confiance pour proposer de nouveaux outils. La balle est dans leur camp.
Une réforme de l'assurance chômage, comme celle qu'Édouard Philippe s'apprête à détailler, 9 ans après François Fillon.
Les députés ont donné hier soir leur feu vert au forfait mobilité. Ce forfait doit encourager les salariés à se rendre à leur travail en vélo ou en covoiturage. Les employeurs pourront rembourser leurs employés vertueux jusqu'à 400 euros par mois, mais ce ne sera pas obligatoire, comme le souhaitaient certains élus. Transport encore avec l'Assemblée Générale, très attendue aujourd'hui de Renault, une AG test pour le nouveau PDG. On y revient dans le journal de 8h. Direction Hong Kong maintenant. Hong Kong paralysé par les manifestants. Nouvelle démonstration de force de la rue aujourd'hui contre le projet de loi des autorités qui souhaitent pouvoir faire extrader les ressortissants hongkongais vers la Chine continentale. Des milliers de protestataires ont encerclé ce matin les bâtiments du gouvernement et empêché la circulation. Une pression qui semble avoir payé. Bonjour Dominique André.
Bonjour Sébastien.
Notre correspondante en direct de Pékin, les autorités de Hong Kong ont donc reporté ce matin l'examen de la loi qui était prévue aujourd'hui.
Et oui, la pression de la rue l'a emporté en tout cas dans un premier temps, mais ce qu'on ignore c'est si ce projet de loi est reporté sine die ou pour des mois, voire des années. Les Hongkongais manifestent ce matin parce que la manifestation monstre de dimanche qui a rassemblé plus d'un million de personnes n'a pas été entendue par Carrie Lam, la chef du gouvernement local pro-Pékin. Des milliers de personnes habillées en noir, essentiellement des jeunes, sont rassemblées en ce moment à proximité du siège du conseil législatif, le Parlement local, et des policiers anti-émeutes sont déployés. Face à cette mobilisation de jeunes, Carrie Lam et le régime de Pékin se trouvent dans une position bien compliquée. Le projet de loi a fait l'objet de protestations internationales, y compris des autorités religieuses à Hong Kong. Et plus largement, ce mouvement montre que les Hongkongais ne sont pas prêts à renoncer à leur statut spécial qui tombera en 2047 et qui, en attendant, leur permet à tous de voter, de s'exprimer librement et de manifester comme nous pouvons le constater.
Dominique André, merci, en direct de Pékin.
Et on revient en France, Sébastien, 7h38. Faut-il dérembourser ou non l'homéopathie? C'est l'oral de la dernière chance pour les laboratoires.
Les laboratoires Boiron, Ling et Velleda, les trois principaux fournisseurs de médicaments homéopathiques, seront auditionnés aujourd'hui par la Haute Autorité de Santé qui s'est donné encore 15 jours pour rendre sa décision définitive. Dans son avis provisoire adopté le mois dernier, la Haute Autorité prenait l'arrêt du remboursement à 30% à l'absence de preuves d'efficacité. Les labos vont donc de tenter d'abattre leur dernière carte, Véronique Julia.
Les trois laboratoires ont choisi de faire audition commune. C'est donc à trois qu'ils vont se présenter ce matin pour une audition qui devrait durer à peu près une heure. Dans leur besace, des arguments scientifiques et solides, précisent-ils, et notamment l'étude EPI3, financée par Boiron il y a quelques années. Elle porte sur 8000 patients et elle démontre, pour les douleurs musculo-squelettiques, les troubles nerveux et les infections des voies aériennes supérieures, elle démontre que l'homéopathie permet de réduire la consommation d'anti-inflammatoires, d'antibiotiques et de psychotropes sans perte de chance pour le patient. Pour les trois labos, c'est une preuve d'efficacité. Pour leurs adversaires, l'étude comporte des biais et n'a rien de concluant. Les experts de la Haute Autorité de Santé en jugeront. L'enjeu de l'audition est d'abord scientifique. Il tourne autour du service médical rendu aux patients. Mais d'autres arguments seront sans doute avancés. L'adhésion des Français, 72% croient à l'efficacité de l'homéopathie d'après un sondage Odoxa. Le nombre de médecins généraliste prescripteur, il serait 34% d'après Boiron. Le coût aussi de l'homéopathie, d'après l'étude EPI3, toujours la même, un patient soigné à l'homéopathie coûterait 35% de moins à la Sécurité sociale.
Véronique Julia, service santé de France Inter, décision définitive rendue publique le 28 juin. J'ajoute ce matin que l'INSEE confirme que le marché de l'emploi en France va mieux avec 92 800 postes créés dans le privé au premier trimestre, soit une hausse de 0,4% après déjà 0,3% au trimestre précédent.
Et on termine, Sébastien, avec la nouvelle star de la scène artistique, un robot qui répond au doux prénom d'Aïda.
Aïda, la première robot artiste au monde, selon son inventeur. Aïda expose ses dessins, ses peintures, ses sculptures et même ses performances. Elle fait aussi pour l'occasion sa première apparition publique. Marion Lourd l'a rencontrée.
Elle porte une blouse de peintre au milieu de ses tableaux dégradés de jaune et de vert. Crayon à la main, regard vif, mais bras métalliques, l'artiste Aïda a sa technique bien à elle, pas si loin des artistes humains, selon son créateur, Aidan Meller.
Elle vous regarde à travers les caméras de ses yeux. Ensuite, on a un algorithme qui interroge cette vision informatique et va commander son bras qui va ensuite suivre des coordonnées. Quand elle fait un dessin, on ne sait pas à quoi il ressemblera, même si le modèle est deux fois la même personne.
Dessiner et interpréter ce qu'elle voit pour un robot humanoïde, c'est une première. De quoi faire trembler les artistes humains ? Pas sûr. En tout cas, Aïda n'affiche pas cette ambition.
J'aime penser que, bien que je sois différente, je peux être complémentaire des artistes humains. Nous pouvons nous inspirer les uns les autres.
Mais qui est vraiment l'artiste ? Aïda, son inventeur, l'usine de Cornouailles qui l'a fabriquée, ou les étudiants de Leeds et d'Oxford qui ont conçu ces algorithmes ? En tout cas, les œuvres d'Aïda se vendent. Elles ont rapporté plus d'un million d'euros pour un investissement qui reste secret. À Oxford, Marion Lourd, France Inter.
Voilà, jusqu'où iront les robots ? Une exposition d'Aïda qui démarre aujourd'hui à l'université d'Oxford et c'est jusqu'au 6 juillet prochain.
Merci Sébastien Legénie.